Dans le cadre de la célébration des 15 ans des Radio Okapi, Parole aux auditeurs et Découvertes, ainsi que le journal des 12 heures, seront en direct du collège Mwanga de Goma ce vendredi 10 février de 11h à 12h et de 13h à 16h de Kinshasa, sous les couleurs de la 4e édition du Festival des musiques et danses à Mani. Au menu, consolidation de la paix et sécurité, femmes, jeunesse et développement. Les 15 ans des Radio Okapi, ça s'est fait avec vous en direct sur nos antennes. Bien, la fistule obstétricale touche de nombreuses femmes et jeunes filles. Faute de moyens, la plupart d'entre elles n'ont pas accès à un traitement adéquat et sont parfois rejetées à cause des pertes involontaires d'urine. Pour leur venir en aide, le Fonds des Nations Unies pour la Population a initié une campagne de réparation gratuite des fistules depuis hier jeudi en collaboration avec l'hôpital Biamba Marie Mutombo avec l'appui des médecins internationaux. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Madame Diéné Keïta, représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population en République démocratique du Congo. Madame Diéné, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons des soins adéquats aux femmes souffrant des fistules obstétricales. D'abord, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par fistule obstétricale?
La fistule obstétricale, c'est une plaie qui se crée lors de l'accouchement quand la femme a un bassin trop petit et que le bébé, l'enfant, a du mal à sortir. Mmh. Quand c'est une fistule simple, c'est un simple trou au niveau du vagin. Mais quand c'est plus complexe, c'est au niveau vésico-vaginal, donc les deux trous.
Donc il y a communication.
Exactement.
Voilà. Et quelles sont les causes? Qu'est-ce qui cause généralement la fistule chez la femme?
Ce qui cause généralement, c'est la jeunesse de la fille. C'est souvent pour beaucoup les mariages précoces, les grossesses précoces. Le corps n'est pas prêt à recevoir un bébé. Et donc, il souffre en mettant ce bébé au monde. Et ce qui cause les mariages précoces et les grossesses précoces, c'est souvent la pauvreté. C'est dans les milieux les plus pauvres qu'on rencontre aujourd'hui les fistules obstétricales pour la plupart des cas.
Voilà, donc ce sont là les causes majeures, disons.
Ce sont les causes.
Mais il y en a sûrement d'autres.
Il y en a d'autres. Mais vraiment, la cause majeure de la fistule obstétricale, c'est la jeunesse de la femme et l'incapacité de son corps à pouvoir mettre au monde un bébé avec un bassin trop petit.
Alors, on parle aussi souvent du viol, par exemple, à l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire que le viol des femmes, c'est aussi à la base de cela?
Oui, ça, ce sont les fistules du fait de violence. Personnellement, je considère le mariage précoce comme une violence faite à la jeune fille. Mais les violences dont vous parlez, ça c'est du fait de conflits. Sur à peu près les 40 000 fistules qui existent au Congo, il n'y a que 10% qui sont du fait de violence. Tout le reste, c'est du fait de fistules obstétricales, de grossesses précoces, de grossesses mal préparées et mal suivies. Et c'est important de le signaler parce qu'on a tendance à tout mettre sur le fait de violence, du fait de conflit. Mmh. Non. Non. Le trop jeune âge pour le mariage est souvent la cause de ces fistules-là.
Et souvent, c'est dans quelle partie du pays on a enregistré beaucoup plus des cas, des fistules?
Il y en a partout. Au début, quand on a commencé la campagne vers 2006, on en a eu énormément dans le Maniema. C'est pour ça qu'on a des professeurs extrêmement compétents à Kindu qui vraiment réparent ces fistules de manière formidable. Sinon, dans le Congo central aussi, il y en a. Dans le Kivu, il y en a partout.
Parce à cause des mariages précoces.
Les femmes mettent au monde partout sur le territoire.
Voilà, donc ce sont là les raisons à la base de ces fistules. Alors, quels sont les symptômes? Comment on arrive à reconnaître que cette femme a des fistules?
Bon, déjà, on le reconnaît parce qu'elle a des pertes. Donc, étant donné que son corps a des trous dans sa voie basse, donc elle ne retient plus ni les urines, ni autre chose. Donc, elle finit par sentir mauvais. Elle finit par être déplacée et souvent elle est chassée de sa famille et dans certaines parties on la considère comme une sorcière et on la renvoie de la maison. Elle n'a plus où être.
Donc elle sait plus retenir
les
urines.
Rien.
Voilà. Et ça c'est un problème au niveau de la société, au niveau de la communauté.
C'est un sérieux problème. Et de plus en plus, avec les campagnes de plaidoyer, les gens ne les chassent plus. Et on procède grâce à la société civile, et je crois que c'est là où il faut les mentionner, au recrutement des femmes. On va de village en village à travers les ONG nationales, avec l'aide des ONG nationales, pour aller voir les femmes qui en souffrent et essayer de les regrouper. Et quand on les regroupe, les femmes qui ont des fistules simples, les médecins, gynécologues ou généralistes peuvent les opérer très rapidement. Mais le reste, on les ramène vers les grands centres pour que quand on a des campagnes internationales, comme en ce moment, les professeurs plus expérimentés puissent opérer ces dames-là.
Alors parlez-nous alors de cette campagne qui a été lancée depuis hier à l'hôpital Biyamba Marie Mutombo de Kinshasa avec l'appui de médecins internationaux.
Absolument, et j'aurais bien aimé avoir le professeur Gay avec nous, mais on a dû faire un choix entre venir parler à la population et soigner les femmes. Il vaut mieux qu'il soigne des femmes parce que la campagne, c'est une campagne qui coûte cher. Nous la faisons gratuitement, donc il a réussi à opérer à lui tout seul une quarantaine de patientes avec l'aide de médecins congolais dont le docteur Dolores également. Et je crois que c'est ça qui est très très important pour nous, c'est le compagnonnage chirurgical. Quand ces médecins viennent, les médecins qui sont congolais viennent accompagner. Il y a 3 salles d'opération en même temps qui se font en même temps et ils communiquent entre eux pour justement apprendre les uns des autres et pour pouvoir soigner ces femmes.
Donc hier seulement il a opéré 40 femmes déjà.
Hier et avant-hier, à 3 médecins, oui, absolument.
Voilà, combien de médecins internationaux sont arrivés?
Cette campagne, celle-ci, il y en a une seule. La campagne d'avril, il y en aura 4 autres. Et la campagne, l'année dernière, je pense, en 2016, on a eu 4 campagnes qui ont couvert Kinshasa, Lubumbashi et Goma.
D'accord. Maintenant, les femmes qui sont dans cette situation, qui ont des fistules, comment est-ce qu'elles peuvent s'enregistrer pour bénéficier des soins?
Toutes celles qui ont les moyens d'arriver jusque dans les centres de soins, ça va de soi, sans problème. Pour les autres, comme je dis, on a vraiment l'aide des ONG nationales, des personnes de bonne volonté sur le terrain, qui les remarquent et qui les amènent. Et peut-être qu'il est important de signaler que quand on parle de pauvreté, toutes les femmes qui viennent n'ont pas forcément des fistules au départ, parce qu'elles ont d'autres mots qu'on ne sait pas reconnaître, donc elles viennent aussi. Et c'est là on les trie à part, mais on leur pourvoit des soins aussi, parce qu'elles sont malades et qu'elles en ont besoin.
Alors, mais j'imagine que le recrutement ou l'enregistrement avait eu lieu déjà bien avant et que maintenant, peut-être que vous avez déjà clôturé.
Oh, absolument. Comme on a commencé en janvier pour la campagne de février, mais on ne clôture pas, en fait, parce que les médecins congolais sont là. On amène les cas les plus complexes, mais on continue à opérer autant qu'on peut, chaque fois qu'il y a des cas difficiles.
Bien, on va accueillir Dr Kayembe Pascal, qui nous appelle de Mbujimayi. Il a certainement des questions à vous poser. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Comment assurer des soins adéquats aux femmes souffrant des fistules obstétricales? Madame Diene Keita, représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, RADC, est l'invitée d'Okapi Service. Nous avons en ligne Dr Kayembe Pascal de Mbujimayi. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
J'ai quelques préoccupations adressées à madame votre invitée. J'aimerais savoir son programme est élargi à toute l'étendue de la République démocratique du Congo, si tous les coins sont couverts par son programme, et si leur programme s'attelle aussi à renforcer les capacités des médecins qui doivent prendre en charge les fistules obstétricales, étant donné que les fistules obstétricales peuvent aussi être la conséquence d'une technique obstétricale fictueuse ou bien par exemple une césarienne qui n'a pas pu être effectuée dans de bonnes conditions, qui n'a pas respecté les normes, les standards scientifiques de la technique. Alors j'aimerais aussi savoir s'il s'attelle seulement à prendre en charge ceux qui présentent ces fistules où ils se mettent aussi, s'engagent aussi dans le domaine de la prévention, notamment la sensibilisation des premiers parts dans la consultation prénatale, parce que là, lorsqu'une consultation prénatale est bien faite, il y a lieu d'éviter des fistules obstétricales dues à une dystocie dynamique, c'est-à-dire une dystocie osseuse, une proportion entre le volume du fœtus et le bassin de la femme. On peut déceler ça très tôt et déjouer ça au moment opportun. Est-ce qu'il s'attelle aussi dans la prévention? Voilà mes préoccupations et je remercie l'invité.
Bien, merci docteur Kayembe Pascal de Mbujimaï. Maître Akpaba Olivier, vous êtes à Guémena. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste et également aussi à l'invité. Je suis plutôt Akbadolité.
Bien, vous êtes plutôt Akbado. Quelle est votre question à Akpaba?
Oui, oui, j'ai bien suivi l'invité. Alors, ma question est la suivante. On dit souvent face à des maladies, une meilleure thérapeutique, c'est il faut s'attendre à s'attaquer d'abord à la conséquence au lieu de la cause. Alors, la dame a essayé un peu de relever quelques causes de la maladie, qui parle de la précocité, du mariage de la femme, mais aussi comme auteur de tout ça, la pauvreté, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préconisé pour essayer un peu de s'attaquer? Est-ce qu'il y a une stratégie pour essayer un peu de s'attaquer à la cause plutôt qu'à la conséquence? Aussi, ma deuxième question, est-ce que ce projet-là est seulement pour se limiter, ce projet va seulement se limiter au niveau de Kinshasa ou ça va essayer aussi de couvrir toute l'étendue du pays, puisque je pense que c'est dans la plupart aussi de cas, au niveau de l'intérieur, nos jeunes filles souffrent aussi de ces cas pareils. Est-ce que ce projet va seulement se limiter au niveau de Kinshasa ou cela va s'étendre au niveau de toute l'étendue du territoire du pays?
Merci, Maître Akpaba. Madame Diné, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci à Dr Kayembe et à Maître Akpaba. Je pense que leurs questions sont extrêmement pertinentes. Pour ce qui est du territoire, nous couvrons le territoire national. Nous ne sommes pas les seuls, bien entendu. Comme je dis, il y a des médecins congolais partout sur le territoire national. Mmh. Il y a 512 zones de santé et ils peuvent tous pratiquer le minimum. Il y a aussi quelques ONG internationales qui ont des médecins qui pratiquent dans certaines zones et nos campagnes à nous. Nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, notre rôle majeur, c'est vraiment de prendre en charge les fistules très complexes, de s'assurer aussi de former les médecins congolais pendant que nous faisons ces prises en charge. Le territoire, comme je dis, il y a des campagnes, nous couvrons toutes les régions où nous sommes présents et nous faisons venir les médecins, comme je dis, par exemple, le professeur Manga de Maniema, qu'on a fait venir à Goma pour participer aux différentes réparations. Maintenant, je suis d'accord avec ce que le docteur Kayembe a dit par rapport aux mauvaises chirurgies. Mmh. Bon, ça existe partout sur la planète, ce n'est pas propre au Congo. Un médecin mal formé est une chose, ça c'est encore plus grave, mais je crois que qu'un médecin parfois se trompe dans la pratique de sa science, ça peut arriver. Ce sont des êtres humains et ils prennent la chance de pouvoir essayer de sauver une vie. Donc c'est des médecins comme ça, de bonne volonté, qui essaient de sauver des vies, qui parfois se trompent, pour lesquels on amène des missions internationales pour les aider, pour les former. Et ce que nous faisons en ce moment, c'est la préparation d'un manuel pratique avec des photos simples pour pouvoir les aider à réparer quand ils sont au milieu de nulle part et sans aide aucune que leur bonne volonté de pouvoir sauver les vies de ces femmes pauvres. Mmh. Maître Akpaba a mentionné les conséquences ou les causes.
Oui, s'attaquer aux causes.
C'est la pauvreté pour la plupart vraiment à la base de cela. Il y a quasiment plus de fistules obstétricales, nous ne parlons pas de fistules traumatiques du fait de conflits, en Afrique du Nord. Il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, là, il y en a encore un peu, c'est l'Asie du Sud-Est, encore un peu, et l'Afrique au sud du Sahara.
On peut dire que les mariages précoces, c'est à cause de la pauvreté, les parents trouvent cela comme une source.
C'est certainement à cause de la pauvreté, c'est certainement à cause du manque d'éducation, c'est certainement que si on laissait les filles à l'école un peu plus longtemps, elles auraient une meilleure connaissance de leur corps et elles éviteraient, et elles pourraient passer par ces consultations prénatales dont a parlé le médecin également, pour qu'on puisse les prendre en charge. Mais beaucoup de jeunes filles ne passent par aucune consultation prénatale. Quand on est très très loin, on doit passer deux rivières et un fleuve pour arriver au premier centre de santé. Ce qu'on peut faire, on reste souvent à la maison et on attend le moment d'aller accoucher. Et là, ça crée des problèmes.
Ça crée des problèmes. Jean-Claude Alikéré, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, Oui, bonjour, Radio Capi.
Quelle est votre question, Jean-Claude? On vous écoute.
Oui, vraiment, mon observation concerne d'abord, est-ce que cette ONG ont réellement certains psychologues parmi eux pour que les gens, pour que les concernés soient vraiment bien sensibilisés et informés avant qu'ils soient au niveau des centres d'intervention? Parce que ici, au niveau des Ituri, surtout au niveau des zones là, il passe seulement pour lancer cette tâche au niveau des zones sans même aller sur le terrain pour sensibiliser et faire parler avec les concernés pour les motiver et aller au niveau des centres. Alors, sur ce point, je me demanderais s'ils ont parmi eux les psychologues pour vraiment essayer de parler avec les concernés. Parce que ces mamans, elles ont peur vraiment d'aller au niveau du centre en voyant maintenant leur comportement et leur hygiène habituelle.
D'accord.
Ma question est juste concernant le temps d'intervention chirurgicale. Est-ce que cette femme-là aurait la chance également de mettre au monde après
ces interventions? Merci Jean-Claude. Ngoy-Étienne de Calémy, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Merci de m'avoir donné la parole à ce moment.
Oui.
J'ai une préoccupation avant d'intervenir à la question. Première préoccupation que j'ai entendu que madame l'invité, il a ciblé quelques villes en République démocratique du Congo pour les soins des fistules vésico-vaginales. Maintenant, par exemple, ici chez nous, à Calémy, pour atteindre Goma, c'est un problème, peut-être quelqu'un ne peut avoir des moyens pour atteindre la ville de Goma, ne peut avoir des moyens pour atteindre la ville de Kinshasa et ailleurs parmi les villes qu'il a ciblées. Aussi la question, quels sont les signes ainsi que les symptômes affichés par cette manifestation
des fistules
vésico-vaginales. Merci, monsieur le journaliste.
Bien. Docteur Mangala, vous nous appelez depuis Kikwit. Bonjour. Docteur Mangala.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre question, docteur?
Oui, bonjour. Je vais au Radio Capi. La thématique du jour vraiment est très importante. Bon, j'ai deux petites préoccupations à demander à notre invité.
Oui.
La première est que comment peut-on différencier la fistule urétro-vaginale de la fistule vésico-vaginale? Et la seconde est de savoir, bon, si l'invité peut nous dire quelques examens paracliniques qu'il faut demander pour confirmer le diagnostic du fistule vésico-vaginale. Et je vous remercie.
Bien, merci. Docteur, Madame Dienet, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Toutes ces questions sont extrêmement pertinentes et je suis très heureuse que les questions viennent pour la plupart des hommes, parce que j'espère qu'ils contribueront aussi à faire le plaidoyer dans leur société réciproque. Je vois qu'il y a médecins, il y a avocats, et je pense que c'est très très bien. Je vais répondre, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Je vais commencer par la distance, le monsieur qui a parlé de Calémy. Il y a beaucoup de fistules dans cette zone. Le ministre provincial est venu jusqu'à mes bureaux ici pour en parler. Nous avons une mission qui part la semaine prochaine pour évaluer les besoins. Et nous essayons
à Calémy,
absolument.
D'accord.
Et nous essayons de mobiliser des ressources pour pouvoir aller faire ces opérations là-bas. Évidemment, la République démocratique du Congo est un continent. C'est difficile d'être partout. D'où la formation des médecins est importante pour qu'ils puissent vraiment aider, appuyer. Mmh. Il y a une question, est-ce qu'on réussit à mettre des enfants au monde après réparation? Mais ça, c'est la grande magie. Quand la réparation est bien faite, oui, non seulement on reprend une vie familiale et de couple normale, mais en plus on peut mettre un bébé au monde. C'est pour ça que c'est important, parce que sinon la femme qui souffre de fistules n'est plus une femme, c'est juste un être humain qui ne peut plus apparaître en société.
Et d'ailleurs Jean-Claude a dit que ces femmes sont traumatisées.
Elles sont traumatisées.
Faire appel, est-ce que vous faites appel aux psychologues qui
Absolument.
Peuvent parler avec elles?
Je pense que Jean-Claude a fait un très très bon point, parce qu'il y a trois étapes. Et je crois que la première des étapes, c'est d'abord la prévention. Avant même d'arriver là, que les personnes soient sensibilisées. Et tous vos auditeurs aujourd'hui sont des personnes qui ont posé des questions pertinentes et qui doivent contribuer à nous aider à sensibiliser dans les communautés. Mm-hmm. Pour dire attention, il faut faire des consultations prénatales quand la femme est enceinte. Attention.
Au mariage précoce. Hein.
Attention, ne marions pas les filles trop jeunes. Mm-hmm. Ou si on les marie, qu'on les préserve de la grossesse. C'est très difficile en général.
Parce que le bassin n'est pas encore très bien développé.
Le bassin n'est pas très développé.
Mais à quel âge le bassin de la femme est prêt à accueillir un enfant?
Quand elle devient une femme, et en général, la femme, elle devient femme quand elle a ses 18, 19 ans, 20 ans. Il faut que le temps prenne le corps prenne le temps de se développer.
Mmh. Bien, et voilà encore Yves de Calémy qui dit, qui parle des signes.
Voilà. Il a parlé de fistule vésico-vaginale et urétro-vaginale.
Là, c'est docteur Mangala,
ça, c'est docteur Mangala, de Kikwit.
Oui. Quelle est la différence entre les deux?
Le problème, je crois que l'auditorat de Radio Okapi ne sont pas des médecins, ni des urologues, des andrologues. C'est aller trop loin dans
faut,
le
faut
détail.
Simplifier,
il
voilà.
faut simplifier. Mmh. D'accord. Le vagin, tout le monde sait ce que c'est. L'urètre, c'est le canal par lequel la vessie, l'urine et tout ceci passe. Mmh. Et en général, quand
deux communiquent.
Quand les deux communiquent ou quand alors même le dernier canal par où on fait les gros besoins, dirons-nous pour ne pas utiliser d'autres gros mots mais plus pratiques, mmh. tout ceci communique, évidemment la femme perd beaucoup de liquide et de produits un peu moins liquides. Donc c'est ça qu'il faut savoir pour la population. Mmh. Le reste c'est des termes de médecins qui n'intéressent pas la femme et qui fait peur à la femme plus qu'autre chose. Et le but c'est pas d'effrayer les femmes.
D'accord.
C'est de s'assurer qu'elles soient soignées.
Bien. Comment assurer des soins adéquats aux femmes souffrant des fistules obstétricales? Docteur Kabanda, Alidor, vous êtes à Goma. Bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour. Je suis docteur Alidor Kabanda, médecin directeur de la clinique La Grâce Mugunga à 5 km de la ville de Goma, précisément au nord Kivu.
Oui.
Ma préoccupation, je suis tellement content d'avoir madame aux médias. J'ai salué beaucoup l'initiative, j'ai salué les gouvernements de nous avoir mis, de nous avoir venus en aide. Chez moi, depuis que je suis, j'en ai au moins 5 cas de fistule vaginale. Et les 5 ans sont venus comment? Je suis dans un milieu terrifié. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le mariage précoce. Ils sont mariés à 15 ans, ils sont mariés à 17 ans, à 14 ans, voire même. Et puis, ils ne savent même pas où s'orienter pour la CPN, la consultation prénatale. Et quand ils nous arrivent ici, ils ont des accouchements dystociques. Nous ne savons pas vraiment faire. Vu les moyens, quand on refère ces gens au niveau de grands hôpitaux, au niveau des hôpitaux généraux des références de Goma, on ne trouve pas que les gens là sont pris en charge vraiment parce qu'il n'y a pas de fonds appropriés pour eux. Nous sommes obligés de faire tous nos moyens afin de garantir la sécurité et de garantir la santé de nos patients jusqu'à voir par où nous allons finir. Ma préoccupation à grande, c'est celle-ci. Comme c'est maintenant, j'en ai 5 cas au niveau de l'hôpital. Et ces cas-là me semblent être un peu difficiles. Et quand je demande à la personne de la transférer, de l'orienter à autre place, il me dit que je n'ai pas d'argent pour ces tests. Même si j'allais à la docteur, on va me demander de l'argent. Bon, je ne sais pas vraiment comment on peut nous venir en aide parce que nous-mêmes, dans le milieu que je suis, c'est un milieu de villageois, c'est un milieu de réfugiés. Bon, je me suis donné vraiment fait de faire la clinique, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire et par où nous allons aboutir.
D'accord, c'est merci. Merci, docteur Kabanda Alidor. Au Tchaté, au Koudji, vous êtes à Bounia. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, c'est... Tchatoukout, comme vous le dites, à partir de Bounia, et puis étudiant à G3, faculté de médecine à l'université de Bounia.
Quelle est votre question?
En suivant l'introduction que madame l'invitée a faite, je poserai des questions que je voudrais poser à elle. La première est la suivante. Quelle est la prévalence des fistules obstétricales en RDC en général? Et puis, deuxièmement, pourquoi dans les projets, ils ne veulent pas plus utiliser les médecins congolais dans la prise en charge des fistules obstétricales?
Merci.
Et j'ai compris que dans les programmes, ils veulent plus d'abord les médecins étrangers qui seront accompagnés des médecins congolais. En fait, pour une meilleure prise en charge, il fallait plutôt former des médecins congolais à place. Je dis cela parce qu'un souris, activité, je ne connais aucun spécialiste non spécifique. C'est plus des étrangers qui viennent souvent nous aider. Merci, c'est tout là mes questions.
Merci au chat et Madame Diene, vous avez la parole.
Oui, encore de très très bonnes questions. D'abord, le docteur Banza qui est près de Goma. Cher docteur, j'espère que vous pourrez contacter nos bureaux et à travers Radio Capi de notre bureau de Goma pour y voir comment est-ce qu'il peut vous aider pour ces cas spécifiques lors de campagne. Je pense que vous avez entièrement raison par rapport à ce qui est de prévention. La prévalence est environ de, disons, il y a à peu près 4000 nouvelles fistules chaque année en République du Congo, approximativement.
4000.
Voilà, on n'a pas une idée très exacte de ce qui se passe. Monsieur, je crois que vous m'avez pas écouté au départ. Nous formons les médecins congolais. Nous n'avons aucun moyen de faire venir des dizaines de médecins étrangers parce qu'ils coûtent très très cher, très 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 cher. Ils le font gratuitement de leur temps et c'est des gens très très occupés. Et quand ils viennent, ce qu'ils font, c'est de former 5, 6, 7 médecins déjà compétents pour que eux puissent reformer les autres. Et nous travaillons en ce moment sur un manuel. Dès qu'il sera terminé, que nous pourrons distribuer sur l'étendue du territoire. Nous le faisons en collaboration avec la faculté de médecine de Lubumbashi et de Kinshasa pour nous assurer que ça corresponde aux principes et aux préceptes congolais de la médecine pour aller de l'avant. Maintenant, ce qui est de la prise en charge, c'est vrai que vous soulevez une question extrêmement importante. Même nous, nous ne pouvons pas tout prendre en charge. Les étrangers ne peuvent pas tout prendre en charge. C'est aussi de la responsabilité des zones de santé, des centres de santé pour prendre ces réparations en charge. Une fistule coûte en moyenne à réparer $300 des États-Unis. Ça, c'est la moyenne basse.
$300.
Ça, c'est la moyenne basse.
Maintenant,
la moyenne
haute, c'est $600. Pour ces femmes qui n'ont pas de moyens dans les villages, qu'est-ce qu'elles vont
Mais
faire?
Mais c'est là où toute la couverture sanitaire universelle est importante. C'est là où les hôpitaux publics doivent remplir leur mission d'hôpitaux publics pour être pris en charge et qu'il y a des jeunes médecins qui sont là formés pour prendre en charge cela. C'est une question de développement et c'est pour ça que je dis que c'est un problème de pauvreté. Le développement, c'est d'abord s'occuper des femmes. Dans ce pays, on a 846 000 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances vivantes. Il y a trop de femmes qui meurent encore.
L'hôpital Biamba Marie Mutombo, ces femmes qui viennent pour être opérées, ça se fait gratuitement? Oui, il y a un coût.
Ah non, c'est nous qui prenons toutes les campagnes, nous prenons tous les coûts en charge. Et c'est pour ça que le médecin près de Goma a raison, parce qu'on va les chercher à Matadi, à Boma et ailleurs. On les transporte jusqu'ici, on les héberge, elles passent la chirurgie. Après la chirurgie, justement, on doit les héberger encore pour tout l'appui psychosocial et ensuite les aider à la réintégration dans leur communauté. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent et il faut absolument l'aide de l'État pour accompagner tout ceci.
Et combien de femmes sont attendues à l'hôpital Biamba Marie Mutombo
pour cette campagne pour la réparation de fistules obstétricales? C'est une centaine à peu près. On a fait une campagne en fin d'année pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, par exemple. Là, c'était 5000 femmes. Mais c'est beaucoup de travail que de les rechercher et de les amener.
Alors, cette campagne ne concerne pas seulement les femmes qui ont des fistules qui sont à Kinshasa.
Non.
Elles peuvent venir des
celles qu'elles viennent, là, les 100 femmes dont je parle, il n'y en a que 5 de Kinshasa.
Et les autres viennent d'où, la majorité?
Et les autres viennent, elles viennent, celle-ci, ce gros lot vient pour la plupart de Matadi, Boma et un peu plus bas.
Voilà. Et les autres femmes qui sont dans le même, qui sont dans le besoin, hein, qui veulent se faire opérer, comment se fait l'enregistrement? Y a-t-il un numéro? Y a-t-il un endroit où il faut se rendre
Il faut se rendre dans son centre de santé le plus proche. Parce que toutes nos équipes, que ce soit dans le Bandundu, l'Équateur ou autre, dans le centre de santé le plus proche, et demander à subir des consultations, justement, gynécologiques. Et de là, on les réfère au centre qui prend en charge les fistules obstétricales.
Gaël Dixon nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Oui.
Bonjour Gaël, quelle est votre question?
Oui, j'aimerais juste poser la question à notre invité du jour concernant aussi le sujet du jour, vraiment. Parce que à entendre parler en ses débuts, elle a épinglé deux facteurs. Le premier facteur, tout d'abord, c'est le mariage précoce. Le deuxième facteur, c'est... elle a touché le problème de bassin qui ne s'est pas encore développé. Alors, parce que, en tant que comme moi, d'abord, je suis célibataire. Parfois, il y a des gens qui posent des critères avant de se marier. Il dit, moi, je préfère une fille pas trop grasse, mais un peu maigre, ainsi de suite. Mais quel conseil pourra-t-il donner à tous ceux-là? Comme moi, tout d'abord, moi, j'aime pas de femmes, par exemple, de femmes qui sont vraiment grasses. J'aime de moyennes.
est-ce que faut-il vraiment prendre celles qui ont
alors, vous voulez dire que les femmes
vraiment la question que j'avais à poser à notre invité.
Vous voulez dire que les femmes minces ont des petits bassins, c'est ça? Alors, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Monsieur le célibataire, merci pour votre question. Parce que voilà une vraie question d'un monsieur qui veut épouser une femme qu'il ne fera pas souffrir plus tard. Donc, Gaël, bravo. Bravo, c'est vraiment le but. Le bassin ne dépend pas si on est grosse, grasse ou maigre. Ça n'a rien à voir avec la constitution des os. Il faut simplement que la femme ait le temps de devenir une femme et qu'elle soit consciente qu'elle est en train d'avoir des relations sexuelles et humaines et qu'elle est en train d'avoir un bébé. Déjà, il faut que son cerveau lui-même soit mûr pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas de la corpulence de votre future compagne. Mais le fait que vous soyez intéressé, le seul conseil que je pourrais vous donner en tant que femme et mère, continuez à vous intéresser, respectez-la et écoutez-la. Parce que je crois que c'est là où vous pourrez faire la différence dans la vie et dans votre communauté. Et encore une fois, bravo à vous.
Christian Kapajuka nous a écrit depuis Kisangani. Il dit, le Congo est très vaste alors. Ces genres de campagnes, il faut les réaliser sur l'ensemble du pays parce qu'il y a des femmes qui en sont victimes un peu partout. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, madame?
Oui, le Congo est vaste, le Congo est un continent. Et comment dirais-je, les médecins congolais travaillent d'arrache-pied, ceux qui le font. Il y en a qui le font très très bien, il y en a qui ont encore besoin de formation et nous les accompagnons. Et il y a des ONG internationales qui ne sont pas nous, qui travaillent aussi. C'est pour ça que j'en appelle au gouvernement, aux autorités nationales. Il est important dans les 512 zones de santé qu'il y ait des médecins compétents partout pour pouvoir prendre en charge toutes ces femmes. Parce que on en a besoin. Et aucune organisation, aussi généreuse soit-elle, ne peut prendre tout ceci en charge.
Bien sûr. Alors, la campagne qui se déroule à l'hôpital Biyambamari va durer combien de jours?
Cette campagne va durer 2 semaines. Le professeur, pour rassurer un monsieur qui a dit que pourquoi est-ce qu'on prend des médecins, pas des médecins congolais, le médecin étranger fait simplement 8 jours parmi nous. Et les autres 8 jours qui continuent, seuls les médecins congolais continuent.
Ils sont nombre de combien, ceux qui travaillent à l'hôpital?
Ceux qui travaillent à l'hôpital. On prend pas que les médecins de l'hôpital Biamba.
Oui.
On prend les 3 chirurgiens qui sont là, qui savent réparer les fistules. Mais nous prenons aussi Dr Dolores de l'hôpital Saint-Joseph. Nous prenons le professeur... il y a 2 professeurs, j'ai pas leur nom en tête, je crois, Punga et autres, qui viennent appuyer ces missions-là. Et ensuite, qui continuent les opérations pendant au moins 10 jours.
Bien, voilà, la campagne va durer 2 semaines et ceux qui sont, les femmes qui sont victimes de fistules peuvent venir s'inscrire ou à partir de leur zone de santé,
peuvent
s'inscrire, se faire enregistrer.
Absolument. Et il y aura une campagne dans 2 mois encore.
Dans 2 mois encore.
Absolument. Cette fois-ci, elle aura lieu à Goma et à Lubumbashi.
Goma et Lubumbashi.
Oui.
Bien, merci Madame Diene Keita, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo. À la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.